vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien dans l'actualité des luttes du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30 sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et pour cette reprise de l'actualité des luttes en direct, donc en ce lundi 16 septembre 2024, nous allons passer l'intégralité de cette heure à revenir sur la lutte en Kanaky. En vous diffusant dans une première partie d'émission un interview qui a été réalisé avec un membre du syndicat de l'Union des travailleurs kanak et des exploités autour de la fermeture d'une usine d'exploitation de nickel qui a eu lieu fin août. Et donc on reviendra plus largement sur le climat social et politique en Kanaky. Et dans une deuxième partie, nous serons avec Christian du Mouvement des Kanaks en France. Bonjour.
Bonjour.
Et avec lui, on pourra revenir aussi sur un point sur la répression qui est faite de la mobilisation en cours depuis maintenant de nombreux mois contre le dégel du corps électoral. Et donc pour l'indépendance de la Kanaky, hein, ne soyons pas, baissons les masques directement sur cette émission.
Soyons clairs.
Soyons clairs, c'est de ça qu'on va parler. Voilà, donc on vous laisse écouter dans une première partie l'interview réalisée ce matin avec notre camarade Rock et on revient ensuite dans l'actualité des luttes.
Bonjour, déjà merci de prendre le temps de discuter avec nous. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter ton syndicat aux auditeurs, s'il te plaît?
Oui, bonjour, je suis Rock Aucas, troisième vice-président de l'USTKE, c'est l'Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités, donc c'est un syndicat de lutte sociale, mais aussi qui a inscrit dans son statut la question de l'accès de la Nouvelle-Calédonie à sa pleine souveraineté.
On voulait commencer par revenir un peu avec toi sur évidemment la situation sociale en Nouvelle-Calédonie, en Kanaky pour cette rentrée. Et une des nouvelles qui a pu nous parvenir pendant cette séquence estivale, c'était la fermeture de l'usine de nickel KNS. et pour mieux comprendre les différents enjeux qu'il y a autour de cette entreprise, je voulais te demander de revenir déjà sur l'importance et peut-être la place de l'exploitation du nickel dans l'économie kanak.
On est donc au niveau du nickel, on est quand même troisième producteur mondial du nickel. Hein. C'est la raison de la création de la ville de Nouméa. Hein. Le développement de la ville de Nouméa, c'est fait autour d'une société qui s'appelle la SLN, la société du nickel. Et ça a été toujours un enjeu majeur au niveau du développement économique de l'île. Et donc, pour revenir en fait à l'accord de Nouméa, hein, qui a été signé en 1998 à la suite de l'accord de Matignon, signé en 88, à l'accord de Nouméa, il y a eu un préalable, c'est justement la création de l'usine du Nord, qui est maintenant fermée. C'est l'objet principal de la question de rééquilibrage géographique, hein, parce que la Nouvelle-Calédonie est assez déséquilibrée, déjà au niveau géographique en termes de développement économique, hein, Nouméa qui est quand même assez beaucoup plus développé que les régions du nord et des îles. Donc l'intérêt de faire une usine dans le nord, c'est justement pour amener en fait un développement économique au niveau de la province nord. Et donc permettre aussi à la population kanak de gérer cet outil et de démontrer en fait cette possibilité, cette capacité à la fois à gérer à la fois une province, donc une institution, mais aussi de gérer un outil économique qui est aussi une ressource phare et importante, à la fois dans le rééquilibrage et dans la construction d'un nouveau pays indépendant. C'est parce que je disais tout à l'heure, Nouméa a été construit autour de ses usines. Il y a un développement économique qui s'est principalement développé dans le sud, donc qu'on appelle ça tout ce qui est transport, hein, les ports, etc., les écoles et tout, donc tout est développé en fait au niveau du sud, donc ce qui fait un attrait des populations dans le sud. Et l'intérêt du rééquilibrage, donc voulu par les différents accords, hein, 88 et 98, c'est de pouvoir en fait rééquilibrer en fait le développement économique au niveau global du pays. Hein. Donc le problème, c'est que ben, en fait, quand il y a eu justement le préalable pour l'installation de l'usine du Nord, et dans la province sud, on a profité pour créer une autre usine dans le sud. C'est ce qui a accentué encore un peu plus le déséquilibrage en fait, du développement économique du pays. Quoi.
Est-ce que tu peux revenir un peu sur l'impact économique et donc aussi en termes de licenciement de cette fermeture d'usine? Ça va concerner combien de personnes à peu près?
Alors, en termes de salariés, hein, il y a à peu près 1200 personnes qui travaillent sur l'usine. Donc ça fait plusieurs familles derrière qui sont impactées. Il y a aussi beaucoup de sous-traitants. Hein. Je pense qu'on peut multiplier par deux le chiffre pour avoir le nombre de sous-traitants qui sont engagés en fait au niveau de cette usine. Et puis en termes aussi de donc il y a la question sociale bien sûr des salariés, beaucoup de nos camarades donc qui perdent leur boulot donc qui vont être au chômage pendant un certain temps. Et puis il y a aussi le fait de l'impact au niveau des comptes sociaux. Donc ça fait des cotisations, on va dire, en moins au niveau des comptes sociaux. Tout le monde sait que les comptes sociaux, c'est ce qui permet justement de faire de payer le chômage, la retraite et tout, quoi. Donc ça va faire un choc, bien sûr. On est au niveau équilibre budgétaire du pays. Parce que c'est pas seules les usines qui ont en difficulté, hein. Toutes les usines sont en difficulté. Donc il va s'accentuer avec les problématiques qu'on rencontre en ce moment avec beaucoup d'entreprises qui ont été brûlées pendant les événements du 13 mai et dont on ressent encore aujourd'hui les impacts, quoi. Donc pour l'instant, on n'en est pas sorti.
Alors justement, sur cette question des cotisations sociales, ce qu'on a pu comprendre, c'est que donc la CAFAT, qui est la Caisse de la Sécurité Sociale kanak, en fait, va avoir du mal à dédommager l'ensemble des personnes qui sont mises au chômage. Et ça va poser des problèmes quant au financement en fait, de leurs allocations.
C'est ça. Là, on arrive d'une réunion qui a eu lieu au Congrès où enfin, des informations qu'on a pu avoir plutôt des camarades qui ont assisté à cette réunion, c'est que on est maintenant à plus de 35 000 salariés qui sont concernés. Donc à cela s'ajoutent aussi donc ceux de la mine. Ce sont des chiffres qui datent de août. Donc la fermeture c'était fin août. Mmh. Donc ils vont s'ajouter les 1200. Sur une population active, hein, globalement, dans la Nouvelle-Calédonie, qui est autour de 100 000 habitants. Donc, on a plus d'un tiers de notre population active qui se retrouve au chômage. Et puis, la situation de la CAFAT est déjà financièrement un peu catastrophique bien avant la crise. Donc là, on est vraiment dans une situation vraiment compliquée, où on a le cas de ceux qui sont au chômage, on va dire ceux qui sont au chômage classique, et ceux qui sont au chômage liés aux exactions. Donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon local, chômage spécifique. Mais donc ceux qui ont perdu leur boulot parce qu'ils ont perdu leurs entreprises ou parce qu'ils ont été indirectement affectés par la situation de crise, donc ils sont soit dans un chômage partiel ou chômage total spécifique, mais pendant une certaine durée. Donc ça, c'est du 6 à 9 mois, quoi. Donc surtout ceux qui sont dans les 6 mois, donc à partir du mois de mai, si les nombres de mois qui restent, ils touchent leur chômage, ben, il faut qu'ils trouvent autre chose, quoi. Parce que chez nous, il n'y a pas le RSA, par exemple. Donc voilà, quoi. Donc si pas de chômage, pas de revenus, et puis pas de couverture sociale non plus, quoi.
Alors justement, par rapport à ça, comment est-ce que vous, votre syndicat réagit? Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place? Quelles sont vos perspectives?
Bah déjà, il y a la question de l'urgence. Hein. De l'urgence, déjà, on va commencer par nos camarades, hein, même si c'est la problématique est beaucoup plus large. Hein, donc on commence par nos camarades spécifiquement au niveau du syndicat. Il y a la question de la banque alimentaire. Par rapport à nos camarades qui ont perdu leur travail, mais qui restent quand même syndiqués. Hein. Ça, c'est des discussions qu'on a eues en interne. Et c'est qu'il faut qu'on s'occupe de nos camarades. Donc, on a fait tourner, qu'on appelle ça, une banque alimentaire ou un réseau de solidarité pour venir en soutien. Donc, une fois par mois, on fait des opérations de solidarité envers nos camarades. Et puis, on suit aussi, hein, au niveau du gouvernement local et du congrès local, il y a un plan qui est en train de se mettre en place et qui est en train de se réfléchir, qui est en train de se décider. C'est de proposer un plan, hein, pour l'instant c'est encore en cours de discussion, c'est une proposition de plan quinquennal, hein, les gens peuvent vous retrouver sur le net, avec un certain nombre de projets, de pistes, il y en a qui sont, qu'on appelle ça sur la question de l'urgence sociale, hein. Ils appellent eux dans l'urgence encore la question de la sauvegarde, mmh. Après il viendra la question de la reconstruction, et puis il y a toute une question qui vient sur la refondation du modèle économique du pays. Donc, c'est un plan sur 5 ans. Nous, on est encore, au niveau du syndicat, en train de réfléchir sur ce point-là. Mais c'est un plan qui va beaucoup dépendre, en fait, du gouvernement français. Parce que c'est un plan qui représente un coût. Et ce coût-là, il est peut-être 4 milliards d'euros. Et il sera à intégrer au niveau de la loi de finances, hein, qui va être définie par le nouveau gouvernement français. Quand on attend la mise en place, justement, pour pouvoir défendre notre plan de reconstruction.
Ok.
Donc, au niveau de l'organisation syndicale, on aura à regarder ce qui se passe de plus près, à la fois sur la question du rééquilibrage, la prise en compte de la jeunesse, hein, etc. Et puis réfléchir aussi sur un nouveau modèle de nouvelles manières de faire l'économie, parce qu'en fait tout le monde a constaté, hein, c'est présent dans les différentes discussions au niveau de nos instances locales, que le modèle économique calédonien il est obsolète, et surtout que ça a été un échec qui a été mis en place jusqu'à aujourd'hui en termes de modèle. C'est complètement un échec pour la Nouvelle-Calédonie.
Alors peut-être on peut rappeler en plus pour les auditeurs que pour l'instant, en Nouvelle-Calédonie, l'exportation de nickel, ça représente presque 93% de vos exportations, donc une très grosse partie de l'économie.
C'est ça.
Et donc ça crée aussi un système de dépendance finalement vis-à-vis de l'extérieur. Vous, vous avez pu peut-être évoquer quelques pistes quant à la refonte de ce modèle économique. À quoi vous pensez quand vous en discutez dans le syndicat et au niveau des instances locales ?
En fait, il y a beaucoup d'éléments qui ressortent. Hein. C'est ce qui est visible, je pense, dans tout pays qui digne de ce nom et puis qui se projette. Hein. C'est non seulement l'équilibre de sa balance commerciale, hein, parce qu'on fait beaucoup d'exports de nickel, hein, donc qui est dépendant du marché mondial du nickel. Et par contre, on importe beaucoup aussi, donc on a vraiment une économie de comptoir. Hein, donc on a complètement une balance commerciale déséquilibrée. Donc il y a un élément qui revient souvent, c'est deux choses, hein, la question de la souveraineté alimentaire, la question de la souveraineté énergétique. Hein, on est dans un pays du soleil et puis du vent, donc il y a la possibilité de trouver des alternatives. Et la question de la souveraineté alimentaire, donc on importe beaucoup d'aliments et puis de viande, même de poissons, alors qu'on est une île et qu'on a la possibilité de faire les choses chez nous, quoi. Donc il y a tout cet ensemble de réflexions qui sont amenées à faire mûrir, qui ça puisse intégrer ce nouveau plan, et puis qui nécessite aussi de pouvoir faire travailler les gens du pays, hein, donc des formations, voilà, quoi. C'est un circuit qui est peut-être un peu plus court et qui est plus, on va dire, à la portée de certains d'entre nous. Mais en même temps, on a aussi la possibilité de voir plus loin. Hein. Le nickel reste quand même un produit qu'on appelle ça, qui permet de faire entrer les devises, hein, à côté du tourisme. Bon, en ce moment, au niveau du tourisme, il n'y a pas grand-chose.
Est-ce qu'on peut revenir rapidement, pareil, pour poser le contexte sur la vie chère, en fait ?
En fait, c'est lié à l'indexation, c'est lié à l'import, c'est tout l'outre-mer où les dernières colonies ont un degré d'indexation différent. Hein. Donc les prix sont souvent, on appelle ça, en phase avec l'indexation. Hein. Donc chez nous, par exemple, on a 75% plus cher parce qu'il y a 75% d'indexation. En pays Maori, à Tahiti, c'est un peu plus, 90, donc c'est différent au niveau des DOM. Mais c'est souvent lié aux écarts des salaires, donc les salaires de ceux qui sont les plus riches par rapport à ceux qui sont les plus pauvres, on va dire. Donc, on a des prix ici, même des produits qui sont même de chez nous, hein, pour certains, ça reste cher. Donc, et puis, il y a aussi la question de la culture vivrière aussi. Donc, on a une population qui consomme, on va dire, du magasin. Il y en a aussi une bonne partie de la population qui ont leur culture vivrière aussi, mais d'une manière ou d'une autre, le fait que les prix sont élevés, c'est que beaucoup de ces produits-là sont importés et qui trouvent acquéreurs sur la bonne partie de personnes qui ont des bons salaires, quoi. Et c'est lié à l'économie de comptoir. Et ce qui est paradoxal, c'est que nos produits, quand le cultive chez nous et qu'on le met sur le niveau des étalages, ils n'ont pas les mêmes succès en fait que les produits qui viennent de l'extérieur. Donc les prix sont souvent alignés, quoi.
Alors justement, tu revenais sur le fait que en plus cette fermeture d'usine, elle arrive dans une séquence de mobilisation qui est lancée depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, qui était autour donc de la question du dégel du corps électoral dans le processus qui doit vous amener à une indépendance. Comment est-ce que cette fermeture, elle impacte aussi sur cette séquence de mobilisation et sur les enjeux qu'il y a autour du dégel du corps électoral ?
Alors, la question du dégel du corps électoral, c'est une question qui est purement politique. Et la situation sociale qu'on connaît aujourd'hui, elle est liée à ce texte. Il y a ce texte de passage en force donc de l'État et puis du fait qu'il n'y a pas eu cette impartialité de l'État-là dans le processus, en fait, dans le processus de la fin de l'accord de Nouméa. Et ce passage en force a crispé les positions la question de l'usine du Nord, hein, il peut y avoir une coïncidence ou pas, hein, mais c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un outil important que Louis Pacquiao a défendu depuis les origines. C'est important à la fois pour l'équilibrage, mais c'est important aussi pour le pays de demain, quoi, le pays en construction. Donc, on est dans une situation complexe et compliquée. Mais ce qui peut être important, c'est le fait que la Nouvelle-Calédonie, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas les compétences en termes de commerce extérieur ou en termes de discussion avec les gens de l'extérieur. Donc, on est obligé de passer par la France. Donc, pour trouver un entrepreneur, eh bien, c'est toujours obligé de passer par le filtre de Bercy. On est dans une situation où on a la maîtrise de la ressource parce que ce sont sur les espaces de chez nous. On n'a pas la maîtrise de l'outil économique, quoi. Donc et ça, c'est en ce sens qu'on peut associer la problématique du nickel, hein, que derrière il faut injecter de l'argent pour la relance, etc. Injecter de l'argent, c'est-à-dire faire appel aussi encore une fois à l'État, peut-être aussi. Mais c'est aussi se poser la question de la gestion des ressources. Hein. Ce que derrière, c'est que si on s'engage vers l'ouverture des usines, ça engage des discussions avec l'État, ça engage des deals, hein, voilà, sur la question de la ressource, sur la question de relancer l'outil, sur la question de l'export, vers qui on exporte, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments qui dépendent aussi des discussions avec l'État. Donc, ce sens-là, on peut accrocher la question de l'avenir du pays en termes politiques avec l'avenir de l'usine de l'usine du Nord. Et que l'État a un rôle à jouer aussi tant que voilà, on est dans une situation de colonie, quoi. Et en fait, fondamentalement, hein, on est dans une colonie depuis la prise de possession. Donc, la solution est politique. C'est la question de la pleine souveraineté du pays. Donc, quand on dit que la colonisation est un crime contre l'humanité, voilà, la solution c'est la libération. Mais à côté de ça, il y a aussi une question aussi qui est fondamentale, c'est la question d'un modèle de société. Je suis obligé de préciser cet élément parce que on n'est plus dans la décolonisation purement, on va dire purement canadienne. Il y a aussi des valeurs, des dignités d'hommes, mais aussi une possibilité de faire, de voir un autre monde, de faire les choses différemment. On a tellement vécu chez nous avec des copier-coller de modèles qui ne fonctionnent même pas, hein, d'ailleurs, hein, dans certains cas, qui ne fonctionnent même pas en France, et que ici, ben, on continue à le pratiquer. D'ailleurs, tout à l'heure, je disais que le modèle calédonien, ben, ça a été un échec. Le modèle économique de développement, ça a été un échec parce qu'il y a eu une reproduction, que ce soit au niveau de l'école, de faire de l'économie, de faire du commerce. Donc, il y a une volonté aussi, d'ailleurs, c'est notre projet, de faire un autre modèle de société. Avec, il y a la question centrale de la civilisation kanak qui a été matée depuis l'époque coloniale, qui est centrale. Il y a aussi la volonté de vouloir faire les choses différemment que ce qui est fait en Occident et sur certains sujets, on sait que ça ne fonctionne pas. Et donc, il y a un autre modèle de société qui intègre, hein, qui est inclusif, qui intègre ceux qui sont dans ce pays, ceux qui ont, comme disait un copain de la province Nord, disait que ceux qui ont un grand-père ou une grand-mère ici, c'est-à-dire que ceux qui ont vécu un certain temps ici, c'est la question du dégel, hein. C'est pas une indépendance exclusivement kanak. Ça, on l'a déjà répété plusieurs fois, hein. Depuis avant, les dates qu'on cite régulièrement, c'est 81 avec la définition du kanak par Pierre Duclerc et la question des victimes de l'histoire qu'on cite en 1983, la reconnaissance en fait des victimes de l'histoire, c'est-à-dire ceux qui étaient là à ce moment-là, qui participent avec les kanaks à l'autodétermination de ce pays.
C'est quoi pour vous là les prochains enjeux, les prochaines dates importantes pour cette rentrée-là?
Enfin, en fait, on est dans la continuité parce que nous, on a un calendrier scolaire qui n'est pas le même qu'en France. Mais en fait, nous, ça va être là en fin septembre, début octobre, dès que le gouvernement central sera en place. Et puis, il y a aussi la question de l'organisation de la mouvance indépendantiste locale, hein, parce que ça secoue un petit peu entre ceux qui sont dans les FLN et ceux qui sont à côté, hein. Donc il y a cette stabilité-là au niveau local de la mouvance indépendantiste, qui va peut-être être appelé à partir à Paris pour une discussion. On ne sait pas encore si ça va se tenir début octobre. Donc en fait, là on est en attente de ce qui va se passer déjà au niveau du gouvernement français, s'il va se mettre en place et qui va être notre interlocuteur principal, mais aussi voir la façon dont la mouvance indépendantiste locale va s'organiser en fait par rapport à ce qui se passe là-bas, et c'est par rapport à notre calendrier qu'on va se fixer nous en interne. Savoir que le STKE avait créé un parti qui s'appelle le Parti travailliste en 2006, et c'est ce parti qui est au niveau du FLN. Mmh. Le STKE reste pour se vivre, mais n'est pas partie intégrante du FLN. Quoi. Mmh. Le FLN a été créé dans les années 81. Avec le STKE à l'époque qui est mon fondateur. Le STKE est sorti en 89 à la suite de la signature des accords Matignon à l'époque, donc pour faire le travail au niveau du social. Et maintenant, le STKE reste un syndicat, on va dire, pour l'accession du pays à pleine souveraineté, mais n'est pas partie intégrante du FLN. Donc maintenant, le FLN s'est ouvert à d'autres structures, donc Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, et il y a encore d'autres structures donc historiques qui se retrouvent du coup à côté de la mouvance. Donc il y a un travail en interne de l'UNIPI qui est à mettre en œuvre. Il y a aussi une attente, hein, parce que pour l'instant à Paris, le gouvernement il est en train de se mettre en place, parce que dans les discussions, il faut qu'on discute avec quelqu'un, quoi. On est obligé d'attendre ce qui se passe là-bas. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le FLN, c'est un mouvement de libération, d'accession du pays à la pleine souveraineté qui est reconnu au niveau des instances internationales. Et il y a eu une petite secousse en interne, donc il va falloir qu'il y ait une organisation de l'unité de la mouvance, et puis de voir la stratégie demain de ce qui va être fait.
Là, si vous deviez faire un appel à la population de l'Hexagone, qu'est-ce qui vous semble primordial actuellement de mettre en avant? Qu'est-ce qui doit être entendu en France métropolitaine?
Déjà, la première chose, c'est la question du dégel. Hein. Mmh. C'est que il faut que ce projet-là soit retiré. Donc officiellement, pour l'instant, on entend au niveau de l'État que c'est suspendu. Donc voilà, donc il faut qu'il soit retiré, parce que c'est ça en fait qui a fait des morts. Hein, et puis on subit maintenant les conséquences au niveau social, et avec les impacts politiques. Et puis il y a la question des prisonniers. C'est que nos prisonniers puissent retrouver le retour au niveau du pays, quoi. Voilà. Mmh. Ces prisonniers sont des prisonniers politiques. Et voilà, et je salue aussi, s'ils nous écoutent, l'ensemble des camarades de Solidarité Kanaky dans les différentes régions, les camarades des mouvements des jeunes Kanaky qui poursuivent les mobilisations dans les différents endroits de l'Hexagone, et ceux aussi qui sont plus près des villes où sont nos prisonniers. Et voilà, c'est... le travail il est compliqué, et c'est encore plus compliqué pour nos camarades qui sont derrière les barreaux. Donc ce qu'on demande nous ici, c'est qu'ils soient rapatriés au pays, quoi.
Pour finir, comment est-ce que tu sens le climat vis-à-vis de la question de l'indépendance, vis-à-vis de la question du dégel? Est-ce que tu as l'impression que est-ce que la population est toujours déterminée? Comment tu sens le climat politique aussi un peu au quotidien, comme ça, l'atmosphère actuellement, tu la sens comment?
Ça reste, on est toujours dans une situation de crise, hein. On est toujours en couvre-feu, il y a la question du 24 septembre, donc on est toujours, il y a toujours des mobilisations, dans certains quartiers, même dans le nord, même s'il n'y a pas de blocage et tout. Donc on est dans une situation, on va dire, d'équilibre instable, quoi. Et puis il y a toujours la présence des forces de l'ordre. On n'est pas dans un climat serein, quoi. Il y a toujours cette détermination, mais il y a aussi cette oppression. cette oppression qui est pesante, mais il y a toujours cette détermination. Parce que on est à la fin de processus et puis les positions se crispent. Mais voilà, on est dans une situation d'équilibre instable.
Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On se tiendra au courant, notamment autour de cette date du 24 septembre. Voilà.
Et la date du 24 septembre, c'est une date de prise de possession. Donc c'est un jour férié ici. Et c'est un jour qui est attendu comme une journée noire. Hein, et voilà. Le représentant de l'État local, ben, il resserre un petit peu les couvre-feux autour du 24 septembre. Donc, il craint quelque chose. Je sais pas lequel. Donc, voilà.
Bah, écoute, on se tiendra au courant, en tout cas. Et on essaiera de suivre ça ensemble.
Ça marche. Merci.
Merci beaucoup, Rock.
Merci beaucoup. Que de crimes contre l'humanité pour bien sûr toujours régner. Un jour tu vas payer, ce n'est pas toi qui vas décider. Seul Dieu le sait à qui il doit céder. Ces terres qui étaient des terres sacrées. Tu avais tant piétiné avec tes mots-clés. Tu avais colonisé, oui, sans respecter ce qui était déjà délimité, tout tracé. M'écouter pour te faire rappeler, ne pas te faire oublier. Que la lutte n'en l'a pas arrêté, on va continuer. Le peuple, il veut tout stopper, tout arrêter. Tous ces gens qui viennent pour nous ruiner, nous épuiser. La richesse de cette jeunesse, et jeunesse oubliée. Non, non. Poco Kanaké, Poco Kanaké, Poco Kanaké, mon frère. Poco Kanaké, Poco Kanaké, Poco Kanaké. Conscience de croire à toutes leurs sciences, de pratiquer leur tolérance, de se rapprocher de leur tendance. Il faut surtout que tu penses indépendance, indépendance pour toi, ton peuple, une délivrance avec espérance et sans manigance, toujours avec conscience, mais sans leur grande science.
De retour dans l'actualité des luttes, et ce jusqu'à 13h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et donc nous sommes maintenant en plateau avec Christian du mouvement des Kanaks en France afin de continuer cette émission. Avant de prendre le temps avec toi de discuter de la répression qui s'abat sur le mouvement, on voulait faire un tout petit point à la fin de l'interview de notre camarade. Vous avez entendu la date du 24 septembre, que peut-être vous ne connaissez pas, comme nous ne connaissions pas auparavant. Et donc, nous nous sommes dit que c'était l'occasion de faire un petit point tout de même. Et donc, voilà, pour le petit point info, le 24 septembre est un jour férié en Nouvelle-Calédonie, car c'est le 170e anniversaire du rattachement de la Nouvelle-Calédonie en France. Donc, c'est un 24 septembre 1853. Exact. Voilà, qu'un amiral Février Despointes, ouais, a pris possession de la Nouvelle-Calédonie au nom de l'empereur Napoléon III, hein, voilà, que des gens bien, décidément. Et en 2004, quand même, dans la foulée des accords de Nouméa, elle est devenue le jour de la fête de la citoyenneté, à l'initiative de Dewé Gorodé.
Oui,
c'est bon, ça. Là, j'ai pas mal prononcé, oui, voilà. Et donc, c'est une date importante. Notamment pour la mobilisation qui continue de vivre actuellement en Kanaky.
C'est ça.
C'est ça. Bon, alors. Justement, enchaînant donc sur cette mobilisation qui est particulièrement attaquée, la dernière émission que nous avions pu faire ici était notamment sur la répression qui était menée contre la mobilisation depuis maintenant de nombreux mois contre le dégel du corps électoral en Kanaky. Et là, on voulait faire un point avec toi sur cette rentrée, d'où est-ce qu'on en était. Alors, voilà, cette première question n'est pas agréable, mais elle est importante à signifier. Dans ce mouvement, il y a des morts.
Effectivement.
Et il y en a eu de nouveaux, oui. Notamment cet été. Et résultat, je vais commencer par te demander de nous faire le compte des personnes qui ont été tuées par la police ou par les loyalistes lors de cette mobilisation.
D'accord. Eh bien, à l'été juin, on comptabilisait une dizaine de morts. Et il y a d'autres morts qui sont intervenus, mais de manière directe. Et comme c'est semblable aux guerres de guerres coloniales, le bilan n'est pas aussi précis qu'on voudrait, et qu'on a des morts qui sont parfois collatérales, où on a des conséquences par conséquence, et donc on a des liens parfois directs ou indirects. Donc on n'a pas de chiffres exacts, mais on est aux alentours toujours d'une dizaine de morts. Je ne sais pas si on a dépassé la vingtaine, mais on est autour d'une dizaine de morts.
Principalement des jeunes personnes.
Principalement des jeunes personnes. Et dès le début de l'insurrection kanak, du 13 mai, on a de suite des jeunes qui ont perdu la vie, qui ont été tués par armes à feu. Certains ont pris des balles dans la tête. Donc ça a été évoqué par des camarades sur différentes chaînes médias qui ont essayé de faire circuler le maximum d'informations. On a des jeunes âgés de 17 ans, l'âge assez jeune. Donc c'est la jeunesse qui s'est levée, et particulièrement dans le bassin urbain, c'est Nouméa, dans les quartiers nord de Nouméa. Donc de Tindu, Rivière-Salée, Moravel, Machetatour. Voilà, c'est différents quartiers, Rivière-Salée, de la banlieue nord. Donc oui, c'est une jeunesse qui se lève, c'est une jeunesse qui souhaite montrer son mécontentement, et qui va au-delà de la question politique, qui est aussi une question plus généralement, une question sociale, qui ne souhaite pas faire société dans l'état actuel des choses, dans ce contexte social, qui est celui, appelons-le avec les mots, un contexte purement colonial.
Alors on voulait te demander aussi en ce mois de septembre, où en est-on de la mobilisation sur place, c'est-à-dire existe-t-il encore des points de tension, existe-t-il encore des barrages, quelles sont les formes qu'ont pu prendre la mobilisation ces derniers mois?
Aujourd'hui on est descendu d'un cran, mais on a quand même des foyers, que je nommais des foyers, dans lesquels la résistance se fait toujours plus active. Quand je dis que c'est descendu d'un cran, je vais plutôt parler du bassin urbain qui est Nouméa. On a encore quelques quartiers qui maintiennent des barrages. Et dans la grande agglomération, on a cette tribu qu'on appelle Saint-Louis, qui elle est restée déterminée, qui a perdu encore des personnes, qui ont perdu des gens à eux et qui maintiennent encore les barrages. Et ces quartiers-là et Saint-Louis, ils sont complètement privés de leur droit de circuler. On a des contrôles, les forces de l'ordre ont décidé de mener une politique d'harcèlement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous sortez ou vous rentrez, vous êtes contrôlé systématiquement. Donc il y a ce contrôle, et puis bien sûr il y a le fameux couvre-feu qui a été rétabli à 18h. Donc elle a été rétablie après le congrès du FLNKS, après cette déclaration, notamment et la nomination de son nouveau président du Front de Libération, qui est notamment monsieur Christian Théin, qui est incarcéré à la maison d'arrêt de Mulhouse, qui est également le président de la CCAT. Donc des foyers, c'est ça qui continue à maintenir une pression, on va dire c'est la résistance, c'est la France de 42 à 44, il y a des actions qui sont menées de sabotage, on remonte, mais l'information elle n'est pas aussi fluide, vous en doutez bien, par sécurité pour ceux qui mènent les actions. Mais voilà, ça continue, mais surtout on a les militants sur le terrain, ils sont en attente des futures consignes qui vont arriver. Notamment, on sait qu'il y a la déclaration que vous venez d'évoquer du 24 septembre, en rappelant la signification de la date, la symbolique. Et Et ben, ce serait la fameuse phase 3 dans laquelle j'ai pu en discuter, puis avoir l'information comme quoi la phase 3 serait le retrait des élus des institutions. Donc ça, c'est une question qui clivante, qui aujourd'hui font l'objet des discussions entre les différents référents et les responsables politiques. Mmh. Oui.
Et sur place, il n'y a pas eu de... Comme tu mettais en avant donc, le fait que le couvre-feu avait été rétabli à 18h, qu'il y avait un harcèlement mené par la police. Est-ce qu'il y a eu un peu quand même une redescente, ne serait-ce même que des armes, de tous les outils policiers qui sont utilisés? Ou est-ce qu'on est toujours à un niveau de sécurité, enfin d'insécurité même, on a envie de dire.
Ouais, pour la population,
pour
c'est
la
clair.
Pour la population, voilà. Très important, comme celui qui était en place autour de mai-juin.
Non, on est toujours face au même. Comme on peut en témoigner, c'est le renouvellement des équipes. Uh-huh. On a des équipes qui tournent en face chez les forces de l'ordre. On a plusieurs avions affrétés qui descendent, qui nous ramènent des gendarmes, des contingents. Donc c'est les témoignages qu'on peut avoir de certains, c'est les contingents qui ont été observés par nos compatriotes qui sont rentrés, qui ont fait le voyage de la métropole à la Calédonie. Donc non, on a des équipes qui maintiennent les forces en termes de normes et qui maintiennent leur position. Je vais parler pour les quartiers de Nouméa, les forces de l'ordre sont toujours bien présents.
Ok. Oui, parce que là maintenant, la police utilise différents moyens, hein, des chars, même des comment dire, du matériel presque quasi militaire, on peut militaire. Le dire. Hein. Donc, est-ce que il y a ce type de matériel qui est dans les rues en Kanaky?
Oui, en effet, la législation a été très subtile. Hein, pour moi, ce qu'on a, on parle de gendarmerie, pour moi, c'est des militaires. Mmh. Je veux dire, les instruments, les outils qui sont utilisés, que ce soit les blindés et ou les, parce qu'il faut voir comment ils délogent un barrage. Hein. Le barrage, il y a le fameux, quand tout le monde tourne en Calédonie, ce qui est assez connu, ce véhicule qu'on va appeler le Centaure. Qui vient, qui percute littéralement le barrage, et puis qu'après, vous avez tous les autres véhicules qui suivent. C'est vraiment une démonstration de force que fait l'État sur ce territoire. Et c'est le temps, la méthode, la technique, tout rappelle qu'on est face à une présence d'une armée.
Mmh. Ouais, c'est une occupation.
Une occupation, oui.
Parce que tu parlais de morts tués par des balles.
Oui.
Donc ça veut dire, c'est quoi? C'est des militaires armés de fusils qui tirent sur la foule? C'est qui ces gens qui tirent?
Comme il n'y a pas d'enquête pour l'instant à présent, mais d'après les témoignages qui sont faits par qu'on a des retours sur ces actes-là, on est face à des miliciens, tout simplement, qui bien souvent sont de connivence avec les forces de l'ordre. Ils ont été observés à leur côté. On a certaines personnes qui ont appartenu aux forces de l'ordre,
militaires ou policiers.
Ouais. Policiers, ouais,
hein. Certains policiers. Donc oui, il y a cette connivence-là. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas nous qui faisons le récit officiel. On a le procureur qui lit sa sainte Bible sur Radio Rythme Bleu. Mmh. Avec notre fameuse Isabelle Noir qui vont tout simplement nous dire voilà ce qu'est la version officielle, et nous on fait face à ça, on a tout simplement des gens qui sont sur le terrain mais qui observent pas du tout les mêmes faits et puis qui essaient d'en remonter, mais malheureusement on n'a pas la puissance de communication qu'ils ont. Je veux dire, monsieur est invité, monsieur le procureur, tout simplement invité en raison de ses fonctions au JT du soir sur la chaîne locale. Mm-hmm. Voilà, ça pour un Français qui regarde un national qui regarde ça, ça rappelle des souvenirs de l'ORTF. Mm-hmm. On avait le ministre de la communication qui était invité. C'est exactement la même image qu'on a chez nous.
Pour l'instant, il n'y a eu aucune inculpation suite au meurtre, on peut le dire, qui ont eu lieu.
Le procureur de mémoire, je vais pas être peut-être précis sur ça, mais de mémoire, on a deux tireurs qui ont été interpellés, puis Je crois qu'il y a un qui a été emmené même ici en métropole pour sa sécurité. Voilà, et un second dont je n'ai pas plus d'informations que ça, mais voilà, ça a été aussi d'une part de volonté du procureur de ne pas trop diffuser des informations sur les affaires, sur ces affaires.
Alors, une des choses sur lesquelles on trouvait qu'il était important de revenir, mais notamment parce qu'on est concerné même sur le territoire national, là, c'était aussi cette question que mettait en avant Rock des prisonniers politiques qui, en partie, sont déportés sur le territoire français. Le président de la CCAT lui-même est dans les geôles de Mulhouse. Alors là, on en est à peu près à... Vous avez une comptabilité, vous savez à peu près combien il y a de prisonniers politiques ?
Effectivement, en comptant nos responsables de la CCAT, plus les militants qui ont été interpellés dans les barrages et aussi d'autres qui ont fait les mutineries de la prison de la capitale, on a aux alentours d'une cinquantaine de prisonniers à l'heure actuelle. Donc on a littéralement 50 prisonniers qui ont pris l'avion, pour la plupart qui ont pris les avions militaires et qui ont atterri sur les tarmacs des bases militaires et puis qui ont été de manière
dispatchés
dans
différentes prisons françaises. Et principalement dans des petites, parce que Vesoul, parce que... Donc on est dans des petites maisons d'arrêt où il n'y a pas forcément des collectifs sur place capables de soutenir.
C'est ça. C'est là tout l'enjeu du travail qui est fait ici par les différentes associations, enfin différents collectifs plutôt, je veux parler, notamment le collectif Solidarité Kanaki, avec dans son sein notamment le mouvement Kanak en France, le MKF.
Et du coup, est-ce que tous ces prisonniers, bon, alors sur un certain nombre d'entre eux, ont été maintenant sont avec des bracelets électroniques. Il y en a combien qui ont pu sortir ?
On en a que deux.
Deux, d'accord.
C'est-à-dire
sur les 50.
Voilà, par rapport à cette décision de, parce que nos responsables ont formé appel de la décision du juge des détentions des libertés par rapport à cette, parce qu'il faut rappeler que ils sont incarcérés ici en métropole. Mais sans jugement. C'est-à-dire qu'il y a toujours la présomption d'innocence. Mais de fait, le fait d'avoir déporté, ça sonne comme une sanction. Ils sont déjà jugés avant même qu'on ait des éléments matériels pour appuyer cette décision-là. Donc le juge des libertés, en connaissance de ce que je vous dis, de mes propos, a confirmé la détention de ces sept ici en métropole et par rapport à son jugement, a aussi... à prononcer la détention avec assignement à résidence, contrôle judiciaire et bracelet électronique pour deux militantes. Donc c'était les deux seules femmes parmi les sept, et qui est Frédéric Mouliava et Brenda Wanabo Ipézé. Donc ils sont tous les deux avec bracelet électronique détention chez de la famille, parce que cette détention à résidence, c'est en résidence ici en métropole et pas en Calédonie, donc on les maintient ici pour les dire, si on en croit les dires du procureur, ce serait pour la sérénité de l'instruction. Et selon eux, des éléments vraisemblables. Aujourd'hui on attend toujours ces éléments là et voilà.
Il n'y a pas eu d'inculpation pour l'instant?
Non du tout.
J'en profite quand même, tu parlais d'une mutinerie à Nouméa, est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu, puisque visiblement le gros quand même des gens qui ont été déportés, c'est suite à cette mutinerie.
De mémoire, d'après les chiffres officiels, la prison aurait perdu 80 cellules. Il faut savoir que la prison a une capacité... Enfin, ces 80 de mémoire, ça représente peut-être un tiers de la capacité de la prison.
C'est une petite maison d'arrêt, c'est ça ?
C'est une petite maison d'arrêt, voilà. D'accord. Elle a perdu un tiers de sa capacité, donc ce qui explique effectivement...
Tu veux dire, les prisonniers, au cours de la mutinerie, ont détruit une partie de la prison ?
Des cellules, oui. Des prisons. Donc cette prison qui a aussi tout un symbole, hein, c'est un ancien bagne.
D'accord.
Dans les mémoires, c'est quelque chose qui résonne et qu'au moment où, le temps monte, passe à cette violence institutionnelle, parce qu'avant la violence de la rue, il y a la violence institutionnelle. Avant que cette loi passe, t'as cette mutinerie-là qui éclate qui éclate pour...
Puis surtout que peut-être dans cette prison, il devait y avoir un certain nombre d'arrêtés, de personnes arrêtées suite au mouvement, donc qui ont après à l'intérieur sûrement...
Non, on n'avait pas un si grand nombre déjà, on avait 5 par rapport aux manifestations, parce que les manifestations qui ont été faites par le CCAT depuis novembre dernier, 2023, c'était des manifestations pacifiques, il n'y a pas eu de débordement.
C'est intéressant d'expliquer aussi ça, que souvent la violence, elle est pas, c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qui vient enfin quand personne n'a écouté et n'a pris en considération. C'est intéressant parce que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur des prisons, c'est la réalité. Quoi.
Mandela disait si bien, c'est l'oppresseur qui choisit les armes de l'opprimé. Sûr, ouais. Aujourd'hui, la violence institutionnelle a emmené la violence dans nos quartiers, dans nos tribus.
C'est une réaction.
C'est pas comme si l'État n'était pas prévenu. On a des responsables qui sont montés ici, notamment une délégation de la CCAT, qui ont rencontré les parlementaires, qui les ont avertis sur la situation, disant que ce corps électoral, c'est le nerf de la guerre pour le dossier calédonien, et que toucher au corps électoral, c'est une poudrière, la Nouvelle-Calédonie,
Il y a eu des manifestations importantes aussi.
Importantes, oui. Il faut rappeler la manifestation d'avril.
Ah, oui,
la manifestation d'avril 2024 qui avait quand même rassemblé un peu plus, de manière historique, 60 000 personnes pour un territoire de 270 000.
Ah, carrément. Les mots ont été dits, quoi.
Voilà. Et par ailleurs, il faut aussi mettre en avant que le corps électoral a déjà été ouvert plusieurs fois, et que comme l'a dit Rock plusieurs fois aussi, le projet d'indépendance kanak n'est pas un projet exclusif, c'est un projet d'une autre société, d'une autre manière aussi de vivre ensemble. Ce sera d'ailleurs très intéressant que vous reveniez pour qu'on puisse l'exposer carrément mieux. Et je pense que ça fait aussi partie des choses qui sont dérangeantes dans cette indépendance. On ne veut pas d'une autre manière d'occuper ce territoire, de peut-être d'en exploiter les matières premières aussi potentiellement.
De partager les richesses peut-être.
Il y a cette volonté d'une autre société autour d'une société kanak et dangereuse finalement pour la France qui se retrouverait face à peut-être un exemple qui pourrait être suivi.
Oui. Pour revenir, le nationalisme kanak a toujours été un nationalisme dit ouvert. C'est notamment ce qu'on peut voir dans l'analyse. Si on écoute la définition même de la citoyenneté qui a été défendue, qui a été donnée par le secrétaire général de l'Union calédonienne, qui est Pierre Declercq, en 1981, qui a donné cette définition de ce qu'est kanak dans ce pays, qu'est-ce que sera la citoyenneté. Donc on a toujours prôné une nation multiraciale, inclusive, dans lequel le soleil va briller pour tout le monde, tout simplement. Si on peut pas mettre les mots, nous, on veut vivre l'expérience, on veut le démontrer au-delà de produire un discours. Nos leaders l'ont complètement fait. Il faut savoir que l'Union calédonienne, notamment le parti qui est un des partis indépendantistes, est le plus vieux parti de ce pays-là. Avait dans ses rangs des gens de tous bords. À la base, c'était un parti autonomiste avant son congrès de 77. Donc oui, cette vision-là a été affirmée notamment par différents leaders du Front. Et aujourd'hui, oui, c'est un projet qui dérange les intérêts supérieurs de la nation, si j'ose dire. C'est-à-dire que faut savoir que la ZEE, le fait que la France soit la deuxième puissance en termes de ZEE, après les États-Unis, la zone économique exclusive, la mer, c'est-à-dire que tout le potentiel économique et développement qu'elle ouvre, c'est certainement un des grands enjeux. Aujourd'hui, il faut bien être assez clair et être lucide sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, et aussi faire comprendre, que j'aimerais faire comprendre aussi ici à mes compatriotes, c'est que la France, en Nouvelle-Calédonie, sa présence, elle n'est pas là par charité chrétienne. Et que cette présence française, on la doit, comme a dit si bien Jean-Michel Apathy, par la violence. Elle s'est jamais imposée. Aujourd'hui, elle essaie de légitimer sa présence par des voies démocratiques, par le référendum, en triquant tout simplement les dés du jeu. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est pour nous dérangeant.
Inacceptable même.
Inacceptable.
Plutôt dérangeant même.
Eh bien, écoute, on arrive au terme de cette émission. Alors, je vais te demander s'il y a des dates, des rendez-vous que tu veux nous diffuser pour l'instant.
Les rendez-vous, pour les prochains événements, on aura notamment la déclaration de souveraineté par ce qu'on appelle le collectif Inatch Nekanaki, l'association, autour du grand chef Hippolyte Sinewami de la grande chefferie de Gourechaba. Donc, on a un tiers des grandes chefferies qui vont participer à l'événement. Mmh. Et pour la déclaration, ce qui n'est pas non négligeable quand on sait le pouvoir coutumier, le rayonnement du pouvoir coutumier sur ce territoire, parce que on sait l'influence qu'a ces grandes chefferies et ces déclarations qui vont être effectuées sur l'île de Marais donneront le temps. Clairement,
de la suite
des événements.
Donc, ça veut dire qu'on se retrouve après le 24 pour avoir toutes ces informations et voir un petit peu comment ça va se passer pour la suite, quoi.
Oui.
Super.
Écoute, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, peut-être ?
Tout simplement, force à nos frères de la Martinique qui se lèvent pour leur dignité. Mmh. À tous nos frères du coin du monde qui se lèvent pour de la justice, de la dignité. Nous aimerons ensemble, soyons les flambeaux comme nous montre aujourd'hui Gaza. Et pour cette flamme de la liberté puis de la dignité
contre le colonialisme
et pour de la justice tout simplement, nous demandons justice.
Normalement on fait une émission très prochainement parce qu'en ce moment effectivement il y a pas mal de mouvements en Martinique, Guadeloupe, et on aimerait en savoir un petit peu plus sur pour le pourquoi et puis quelle forme ce mouvement prend pour voir quelle forme de solidarité on peut mettre en place ici en France, mais
tout cas merci beaucoup,
merci à vous,
à très bientôt,
merci beaucoup,
et on vous quitte et on vous retrouve demain de midi et demi à 13h30 sur FPP 106.3
pour parler d'une lutte la plus locale puisque on va aller vers Belleville.
Tout à fait. Donc on sera encore en direct, les amis.
Ouais.
Restez à l'écoute.
On fait une rentrée très...
En pleine forme.
Ouais, en pleine forme. Allez, vaut mieux.
Force à tous et à toutes. Bonne journée.
Bon, je vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Et l'actualité des luttes, c'est aussi en rediffusion du lundi au vendredi de 6h30 à 7h30.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.